Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre
esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire.
Et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui: cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole: un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras. Tuez-le. Mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit: C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce que il a vu revenir ton fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi, c'est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Mais les racines, c'est ce qui montre bien, vous voyez, que quand on vit au niveau du concupiscible ou de l'irascible, on peut se faire manipuler, on se fait manipuler uniquement par les événements. Est-ce qu'on est fait pour être manipulé? Peut-être pas, mais d'un autre côté, c'est bien. Alors, il ne faut pas vivre au niveau de l'irascible. Il faut vivre au niveau. Eh bien, oui, mais d'accord, on est quand même dans l'irascible. Et alors, ce qu'il y a d'aujourd'hui, c'est que c'est normal que. On fait des efforts parce que c'est le carême, alors on dit: Seigneur, bon, hein, je vais arrêter, je vais fumer 20 cigarettes de moins par jour. Bon, j'en garde quand même une dizaine. Hein. Mais vous savez, on coupe, si vous voulez, le concupiscible. Hein? On supprime du vin, on supprime de la télé, on supprime de l'imaginaire. On fait des efforts pour ne pas rêver, pour ne pas... Enfin, je ne sais pas ce que vous avez choisi pour le carême. Ça dépend, chacun d'entre nous a choisi quelque chose. Alors du coup, au bout de quelque chose, ce carême, enfin, là, au milieu de ce carême, on est fatigué. On est fatigué du côté, justement, du concupiscible, du déracine. Alors comme on a bien essayé, soit de bloquer un petit peu plus, pas énorme, parce qu'on n'est pas... On n'est pas très très très... On n'est pas des bourreaux, je veux dire, pour nous-mêmes en général. Mais néanmoins, on essaye quand même un peu. Alors le résultat, c'est que c'est l'irascible qui se réveille. Et c'est toujours comme ça. Si vraiment quelqu'un essaie de jeûner, vraiment, puis faire un effort, à la fin du carême, au milieu du carême, c'est l'irascible qui se réveille. Alors on a... C'est ça. C'est pour ça que... Je ne vous dirai pas, non, ne faites pas votre effort sur les cigarettes, ne faites pas votre effort sur le vin, etc. Non, non, faites-le. Votre effort sur la chasteté, votre effort... Non, on peut très bien faire un carême dans le mariage comme ça. Presque, pourquoi pas. Faites l'expérience, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Pas de vin, esprit de virginité pendant 40 jours, et puis pas de cigarette. Ah, je suis sûr, l'irascible ne mettra pas longtemps à se réveiller. Pas longtemps. Mais c'est un très gros avantage, c'est qu'à ce moment-là, l'illusion saute. C'est pour ça, si facilement on tombe dans l'illusion. Alors, le jeûne, c'est pour revenir à la réalité, et dans le concupiscible, on peut toujours avoir l'impression qu'on plane dans l'amour. Et non, pas forcément, sauf si tu es arrivé à l'étape de l'union transformante, septième demeure. La finale, vous savez, la demeure séraphique. Mais ça m'étonnerait. Si quelqu'un pense y être, alors, il m'intéresse énormément, je supplie de venir me voir pour que je puisse un peu en profiter. Parce que je profiterai de ce rayonnement merveilleux, celui qui domine notre ensemble. Merveilleux. C'est à côté de Saint-François d'Assise. Fait du bien, c'est à côté de Saint-François-d'Assise. Donc si vous êtes dans l'union transformante, c'est-à-dire que vous sentez que c'est pas la peine de faire le jeûne. Non, pas la peine, vous êtes déjà dans l'union transformante. Pas besoin de jeûner. C'est tout de suite ça. Ouais. En fait, le jeûne. Et puis, là, en ce moment, l'agressivité apparaît. Bon, ben, si tu ne sens pas agressif, c'est uniquement parce que tu n'as pas vraiment jeûné, quoi. Hein? Et si vous sentez que je suis agressif, par exemple cet après-midi, j'ai été une agressivité incroyable. Vous voyez, comme j'ai mitraillé sur le chaval, sur le durant. Je ne sais pas la liste, mais j'ai mitraillé, hein, vraiment. Bon, quand je demande pardon d'avoir été agressif, d'avoir laissé mon irascible se réveiller. Bon, c'est un premier point. Mais dans un deuxième temps, il faut quand même se rappeler que vos 10 cigarettes par jour en moins, Dieu s'en fout. Il s'en fout complètement. Vos petits efforts, Dieu, c'est pas ça qui regarde. Vous voyez, je vous ai bien dit qu'il fallait faire quand même. Mais c'est pas ça que tu regardes. Ce que Dieu veut, ce que Jésus nous a demandé, ce que l'Esprit Saint nous a demandé, c'est de nous convertir. C'est changer de vie. C'est vraiment de changer de vie. C'est peut-être notre dernier carême. Vous savez pourquoi? Pour ça. Donc, même à supposer que ce soit pas le dernier, ça doit toujours être le dernier. Et au début du carême, c'est l'effort que nous allons faire, d'essayer, à force de faire oraison, d'être honnête, de regarder Dieu en face, d'aller voir celui qu'il représente et son prophète. De voir ce qu'il y a entre moi et Jésus, et qui fait que l'unité ne se fait pas de manière totale. Il y a quelque chose.
dise aux hommes, les bêtes. Et alors, Jésus sur la croix, tu crois qu'il avait l'air intelligent? Jésus sur la croix n'avait pas l'air intelligent. C'est moi qui vous le dis. Jésus sur la croix, il n'avait même pas un visage humain, tellement il était défiguré. C'est Isaïe qui dit ça. Et Isaïe, quand on a posé la question à Marthe, Robin, on a dit, mais est-ce qu'Isaïe, pour dire ça, est-ce qu'il a vu sur la croix? Quand même, c'est quelques siècles avant, Isaïe. Il a dit, mais bien sûr, il a vu. Bien sûr, Isaïe, tu peux vu. Jésus crucifié. Tellement défiguré. Il y a quelque chose de rebutant, toujours. Dans Jésus crucifié, pardonne. Voyez, la parabole que Jésus nous a donnée aujourd'hui, c'est une parabole de défiguration de Dieu. Dieu est défiguré. Dieu nous atteint en acceptant d'être victime. Il est broyé. Injurier. Toute la parabole, c'est ça. Il prend tout sur lui. Ton cœur te condamne, mais tu es plus grand que ton cœur. C'est Saint Jean qui dit ça. L'évangile, l'épître de Saint Jean. Si ton cœur te condamne, mais tu es plus grand que ça. T'as pas réussi beaucoup d'efforts pour ton carême. Fais des efforts pour ton carré. Tu es content. Mais en même temps, c'est pas pour ça que tu fais le carême. Tu fais le carême parce que tu veux que Dieu prenne toute la place dans ton cœur. Tu veux que Dieu prenne toute la place et que toi, à l'intérieur de toi, tu disparais et que la place n'y est plus. Alors, au début du carême, on essaie de voir ce qui est entre moi et Jésus pour que l'union ne soit pas, et qui fait que l'union n'est pas totale. Vous savez, c'est facile pour chacun d'entre nous de savoir exactement. C'est pas les cigarettes. Je vous affirme que c'est pas les cigarettes. Je vous promets que c'est pas les cigarettes. Alors, c'est l'avantage. Comprenez, du réveil de l'irratie, que de comprendre au milieu du carême, que le carême, c'est au milieu du carême, s'ouvrir son carême véritable, qui consiste à renoncer, à donner, à offrir, à pardonner à Dieu. Et à lui faire une confiance totale. Si toi tu ne comprends pas les voies de Dieu, tu risques de dire Dieu exagère. Alors si Dieu, bien sûr, il y en a qui ne s'autorisent pas à dire que Dieu exagère. Alors ils disent le pape exagère. C'est plus facile. Alors il y en a qui aiment le pape. Alors ils disent l'évêque est un ça c'est vrai. Mais il n'y a pas que le pape l'évêque, il y a aussi ceux qui représentent pour nous et qui sont des prophètes. Par exemple, mon frère, ma soeur, je sais pas. Ma femme, par exemple, non, elle exagère. C'est une manière de dire que Dieu. Alors on se révolte contre Dieu. Mais la révolte contre Dieu, elle passe par le concupiscible, elle passe par l'irascible. Il ne faut jamais oublier ça. Et donc, elle se cristallise sur le prochain. Ma révolte contre Dieu se cristallise toujours sur le prochain. Toujours.
Et le carême, c'est de renoncer à se révolter contre Dieu. Et de pardonner à Dieu. Et d'une véritable confiance totale. S'il a mis celui qui est proche de moi, à côté de moi, c'est pas pour des blagues. C'est lui. C'est l'Immaculé. À partir du moment où je me suis consacré à l'Immaculé, ça fait carême aussi. Le prochain qui est à côté de moi, si Jésus a mis ce prochain à côté de moi, mais c'est pétant exactement ce qu'il voulait. Exactement. Au millimètre près. Au millimètre près. C'est pétant ce qu'il fallait. Ce gosse, ah j'ai un gosse, j'ai un enfant, il est handicapé. Et alors? Il est handicapé, oui. Et moi je suis désemparé. Mais le bon Dieu m'a mis proche de lui, pas pour des blagues. Faut comprendre, si vous voulez, notre révolte contre Dieu. Vous voyez, c'est ça, cette parabole est géniale pour ça. Ce fils prodigue, les deux frères, le père, on comprend que notre révolte contre Dieu, bah, se cristallise. Dans le concupiscible, dans l'irascible. Le premier gosse, c'est le concupiscible. Le second, c'est l'irascible. Et ça cristallise contre les êtres humains. C'est marrant. Alors, le carême, je renonce. Et je vais au lieu de. Je sors grâce à mon jeûne de l'illusion. Mon agressivité permet de comprendre que je suis dans la contradiction. Le psychose de tout à l'heure, il est comme dans la complète contradiction. Alors, du coup, je renonce à mes désirs. Je renonce à mon orgueil. Je veux être maître du terrain par l'orgueil. C'est Dieu qui doit être maître du terrain. Je dois obéir intérieurement à Dieu. Je dois obéir à son Messie. Je dois obéir à l'Esprit. Et donc, je sais que si je cristallise mon concupiscible sur quelqu'un, ou mon irascible sur quelqu'un d'autre, je sais que derrière cela, c'est une révolte contre Dieu. Et donc le carême aujourd'hui, pour nous, qu'on va demander à Jésus dans la Pharisie, c'est d'aller directement au but. On brûle tous les intermédiaires, et on va directement au but, et on pardonne à Dieu. On lui en veut plus. On en veut toujours à Dieu. Parce que l'amour est exigeant. Et le capricieux n'aime pas les exigences. Il aime son caprice. Il n'aime pas l'amour. Alors, il a du mal à pardonner à l'amour. Il faut pardonner à Dieu. Et il lui fait une confiance totale. Comment est-ce qu'on va y arriver? Comment? Alors je regarde celui parmi mes prochains que Dieu a mis proche de moi. Ça peut être la petite copine, ça peut être le mari, la femme, l'enfant, l'oncle, tout ce que vous voulez. Le type au bureau, à l'école. Celui vers lequel je suis porté. Vers le bas, pour les plus concupiscibles. Est-ce que je cristallise ma révolte ou du point de vue irascible? Et ça, vous voyez, j'accepte de le prendre à pleine main et de l'aimer. J'accepte d'arrêter tout ça. J'accepte, vous voyez, de ne plus en vouloir à mon prochain. J'accepte de lui pardonner à fond. J'accepte de le comprendre. J'accepte de le prendre tel qu'il est. Et je me pardonne à moi-même de ne pas réussir à l'aimer. Je me pardonne à moi-même de ne pas réussir à le recevoir tel qu'il est. Je me pardonne à moi-même de ne pas le recevoir comme Dieu le voit, à partir de sa vocation finale. Et je lui pardonne. Parce que s'il n'est pas commode, et bien c'est peut-être parce que Dieu a des exigences sur lui beaucoup plus dures qu'avec moi. Je n'ai pas à lui en vouloir. Je renonce à la jalousie. Je prie pour lui. Et je décide de l'aimer lui en priorité par rapport aux autres.
avec lesquelles mon caprice me porterait facilement. Voilà comment faire carrière. J'accepte de pardonner. Et puis j'accepte d'être pur. Et faire que mon amour soit pur, cette fois qualitatif, égoïste, sensuel. Par rapport à l'autre, ça c'est le moyen de, d'être libre et pouvoir dire à Dieu directement. Quand lui en veut pas, de nous appeler à l'amour si élevé et si grand. C'est quand même ça qu'on lui en puisse lui en vouloir. Mais vous voyez, à partir du moment où vous avez pardonné à tout le monde, c'est possible de faire ça. Et du coup, de lui obéir, et d'obéir à ce qu'il a demandé, lui. Il a demandé quoi? Il a demandé qu'on accueille Jésus dans son corps, dans son sang, dans sa vie spirituelle et tout ça, dans sa grâce, dans les dons, et dans son cœur. Il a demandé qu'on le reçoive vraiment, personnellement, réellement, substantiellement. Un autre, alors là, je vous demande de faire une encyclique et on vous proposera au monde. Ça risque d'intéresser pas mal de gens. Il n'y a pas d'autre endroit. Ça, c'est dans l'écriture. Et on ne peut pas le renverser. Alors, il faut que je rentre complètement dans les décisions. Même si c'est dur, même si ça me fait souffrir, même si ça me fait souffrir de renoncer à ça. Alors j'irai vers le monde de la terre, et puis je lui dirai, mais pff, je veux bien être serviteur, faire ce que je peux dans cette église. Mais aussitôt à ce moment-là, Jésus nous épouse et nous fait rentrer dans l'union transformante. À travers les sacrements. Tout de suite. Mettez-le son manteau, vous savez bien, le manteau représente le sacrement, toujours. Tous les pères et les apôtres ont dit le manteau, c'est les sacrements. La ceinture en or, c'est l'oraison d'amour. On est saint dans une oraison d'amour. On rentre dans les sacrements. On tue vos grâces. Ça veut dire qu'il y a toutes les richesses de la vie. C'est la grâce sanctifiante. Le beau gras. On vit en don vivant. Oh, ah, la grâce. Vie. Et où vivez-vous de la grâce sanctifiante, du manteau des sacrements et de l'oraison des saisons du Saint-Esprit? Vous voulez me dire? C'est à travers le cœur eucharistique du Christ, le cœur eucharistique de l'Immaculé, dans la manière affective et mystique et spirituelle et réelle et plénière et totale dans laquelle l'Immaculé vivait, la mère divine. Au plein mystique, c'est caché. Recevez tout ça, réellement. Et à ce moment-là, elle n'en voulait pas à Dieu d'avoir immolé son fils. Elle n'en a jamais voulu à Dieu d'avoir immolé son fils. Au contraire, elle a porté cette immolation. Et elle s'est immolée à son fils. Où voulez-vous vivre ça en sort de la maison d'Immaculée, la mère de l'Église? C'est pour ça qu'à travers les apparences rebutantes du pain et du vin, et de tous les sacrements, les apparences défigurées des sacrements. Et plus on va avancer, plus les sacrements seront défigurés. Et plus on se rapproche du mystère final. Au Marie et au pied de la croix, le Saint Jésus défigure. Et plus on se rapproche de la sainteté, ne vous dites pas, c'est un grand nombre de buts. Dites, gloire à Dieu, j'ai été choisi pour vivre des mystères plus grands que mes pères. Et je demande pardon à Dieu, je lui en veux pas, je lui fais confiance. C'est ça le carême. Voilà ce que j'ai sur cœur. Donc, si tu demande à Marie, je demande à Esprit-Saint, je demande à très Trinité, je demande à tout Esprit-Saint, je demande à mon ange gardien, je me demande à moi-même que ça touche, bref, que je choisis en premier pour recevoir les bénédictions, les bienfaits, les récompenses. C'est ça. Comme ça qu'on enlève la jalousie. C'est pas commode, hein? C'est plus facile de renoncer au verre de lait le matin, hein? Et on beurre sur la tartine, ça c'est facile. Mais arracher la jalousie, en suppliant, c'est pas ma prière, remarque bien. Sinon tu n'y arriveras pas, tu demandes à Jésus de bénir. Comme ça tu y arriveras encore. Et puis après, tu décides pendant le carême, c'est toujours elle qui se choisit. Et toutes les grâces, même l'amour que tu peux recevoir, c'est elle qui le reçoit. C'est une peste, justement. T'avais pas pensé à ça? T'avais pensé à ça? Ah, est-ce que ce que je te dis c'est la vérité ou bien c'est exagéré? Ça fait rire. Alors, on va demander à Jésus cette force d'être dans une confiance incroyable. Non, t'aurais pu dire que ce que je pensais, hein, mais c'est ce que je pense.
Non,
je
n'ai pas compris la jalousie
du corps. Je me trompe quand tu disais ça, la jalousie, le carême, il faut faire comme ça, plus que la beurre de tartine.
Non.
Hein? Bah, c'est la vérité, ça, alors, ou pas?
Oui, c'est vrai.
Ah, bah d'accord, c'est ce que je pense. C'est pas parce que je te pense. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé, c'est parce que je te forçais à répondre, c'est la vérité. Donc c'est vraiment la vérité. À ton avis? Non, ça va. Alors, c'est sûr que c'est il faut voir ça. Eh bien, on va demander à Jésus, si vous voulez, si c'est pas par hasard, à nous-mêmes qu'il faut pardonner. Si c'est pas par hasard, nous-mêmes, qui sommes à nous-mêmes notre propre ennemi, qui sommes à nous-mêmes notre propre destructeur. On va demander ça, voyez, ça dépend, je vous l'avoue, ça dépend. Quelquefois, c'est directement à Dieu qu'on en veut, d'autres fois, à ceux qui sont proches de nous. Le plus souvent, à nous-mêmes. Et il faut se pardonner à soi-même. Il faut dire... Et trouver que si on est minable, eh ben, c'est justement ça notre chance. C'est justement ça notre chance. Si on n'est pas très intelligent, c'est ça, je suppose. Et que Jésus aime ça. Et que Jésus, si c'était autrement, eh ben, il ne pourrait pas faire de nous un saint. Mais il faut se pardonner et faire confiance que je suis là-dedans, derrière tout ça. Et comme je veux offrir comme l'Immaculée à Jésus, offrir Jésus au Père, il faut que j'offre moi aussi Jésus au Père, mais il faut bien que je passe à travers mes faiblesses, que je les accueille dans les plaies du Christ. Parce que c'est là qu'elles sont déposées, mes faiblesses. C'est là qu'elles sont déposées, mes détresses, mes angoisses. Elles sont bien déposées là, dans les plaies du Christ. Et donc il faut que je les rejoigne, que j'aime de les rejoindre, que je suis reconnaissant en Jésus et à Dieu de pouvoir les rejoindre, parce qu'elles sont blotties dans les plaies du Christ. Et c'est grâce à ça que je peux offrir Jésus au Père. Et qu'en faisant ça, le monde entier est pardonné. Est-ce que je peux faire ça autrement? Et dans l'horizon, et avec Marie. Je ne peux pas. Donc le carême, c'est de se remettre tout près de Marie. De se confesser. De retrouver la grâce d'être dans le corps mystique de Jésus. De vivre ou de la blessure de la nuit. De retrouver dans nos faiblesses dedans. Et du coup de. D'être reconnaissant à Dieu, de participer à la rédemption du monde à travers ça. Je me pardonne moi-même et j'ai confiance. Jésus m'a choisi pour être un saint. Et un saint, c'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Un saint, c'est quelqu'un qui se sert de son péché pour se sauver le monde entier. Ça veut pas dire péché, c'est la loi. Non, j'ai dit il faut d'accord pour supprimer quelque chose. Comme ça. Mais c'est pas ça que tu regardes. Pêcher le moins possible. D'accord. Mais c'est pas ça que tu regardes. Si, voilà. Mais vous ne vaincrez pas le péché si vous ne faites pas comme ça. Parce que si vous attaquez au péché directement, c'est la bataille contre le péché. C'est pas ta phrase pour commencer l'erreur d'Ève. Elle discute avec le serpent. Elle discute avec le serpent. Il fallait qu'elle reste avec Dieu. Oh, tu discutes avec le serpent, mais c'est pas... J'y vais, non? Il est plus intelligent que toi. Alors tu veux discuter contre le péché. Ta seule vie spirituelle, c'est d'essayer d'être parfait. Mais jamais tu seras parfait. Tatar. C'est l'injure, Qatar. La réincarnation de l'inquisiteur. Qatar. Non, c'est pas... c'est pas du tout le... C'est pas la perfection. C'est pas la perfection. Est-ce que Jésus, sur la croix, est dans un état de perfection? Ouais. C'est la source de la perfection. Oui. Et moi, à travers mes imperfections, je peux être source de perfection pour le monde entier. Mais ne vous inquiétez pas que si un jour vous êtes parfait parce que Dieu vous a sanctifié dans l'union transformante, vous aurez toujours la possibilité d'être source de perfection. C'est pas parce que vous avez vaincu le péché que du coup, c'est fini pour vous. Jésus n'avait pas de péché. Voilà, je crois, le carême qu'on va demander à Jésus, nous pardonner à nous-mêmes et dire merci au Seigneur de le louer, de le glorifier dans ses œuvres, de lui obéir, de lui faire confiance, de pardonner tout. Et si je ne pardonne pas à mon prochain, c'est que je n'ai pas pardonné à Dieu. Pardonne à Dieu, moi, j'en veux pas à Dieu. Tu plaisantes. Mais attention, si tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain, ne t'accuse pas de toi-même. Ça prouve que tu t'es pris par la mauvaise porte. Il fallait d'abord te pardonner à toi-même. Si tu n'arrives pas à pardonner à ton prochain, c'est que tu t'es pas pardonné à toi-même. N'oublie jamais ça. Ah. Bon, alors, comment on va faire? Alors, bon, écoutez, je n'ai pas le droit quand même de dépasser, ça fait combien de temps? Nous allons célébrer le carême tout de suite, et puis nous allons demander à Jésus cette force, cette honnêteté, cette grâce de renoncer au péché dans nos relations avec les autres. Des péchés dans l'ordre du concupiscible, dans nos relations avec les autres, et des péchés dans l'ordre de l'irratie. Il faut couper ça, pas à cause de ça, pas à cause de nos relations avec le prochain, pas à cause. Mais parce qu'à travers ça, on sait très bien que c'est Dieu, profondément, c'est Dieu. C'est un Dieu pour me dire non. Eh bien, non. Le carême, c'est de dire non à ça. Et on dit, maintenant, on dira non à ce non. Et on dira oui, Seigneur. Je dis oui. Oui à quoi? Vous n'en savez rien, mais vous dites oui. Je dis oui. Oui quoi? Oui. Je dis oui, 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 oui. Ah, c'est joli. Faites une oraison comme ça. J'arrive pas à faire oraison. Dites-moi oui 1000 fois dans l'oraison. Oui, oui, oui. Je vous jure que vous passez directement dans les cinquièmes demeures de l'union de volonté avec Dieu. C'est-à-dire que vous faites le travail que certaines carmélites font en 15 ans. Avec une oraison, vous faites 1000 fois. Oui, 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 oui. Une heure de suite. Vous arrivez au cinquième demeure sans problème. À la fin. Et si vous faites ça pendant 9 mois, vous arrivez au sixième demeure. Et si
vous êtes fidèle pendant quelques années, vous êtes destin. Pendant quelques années, pas beaucoup, vous savez. Sainte Thérèse d'Avila, il disait 2 ans. Je dis oui. C'est dur hein, de couper avec des relations un peu ambiguës avec une nana quand on est ado, par exemple. C'est pas commode. Si on est ado très longtemps, hein, jusqu'à un certain âge. C'est dur de ne pas réagir en disant. Dieu, d'accueillir l'autre, d'accueillir Dieu à travers l'autre, d'accueillir l'autre en Dieu. Parce que je ne m'accueille pas, si j'arrive à c'est parce que je ne m'accueille pas moi-même en Dieu. Donc je dis oui, je renonce à tout ça. Et je désire Jésus seul. Pendant le carême, c'est Jésus seul. Jésus seul. Dieu seul. Le reste ne sert à rien. Pourrais, comme vous le sentez, je pourrais continuer comme ça jusqu'à minuit. Et donc, arrêtez-moi, s'il vous plaît, quand je me sens comme ça. Hein, arrêtez-moi.